Avoir raison avec Bell Hooks. Aïda Ndiaye.
Bonjour à toutes et à tous. Notre quatrième épisode ce midi, décoloniser notre regard.
White supremacy, first of all, isn't a white thing.
La suprématie blanche n'est pas une affaire de blanc. C'est une composante de notre culture. Elle fait partie de la manière dont on nous a tous appris à penser la différence. Qui vaut plus, qui vaut moins. L'idée que ce qui est clair ou blanc serait meilleur et que ce qui est sombre ou noir serait mauvais. Quelque chose dans lequel chacun, dans cette culture, est socialisé. Si toute la pensée de Bell Hooks sur l'amour, le féminisme ou encore la masculinité s'ancre véritablement dans son expérience de femme noire, grandie à l'époque de la ségrégation, ses analyses de la domination blanche n'ont toutefois pas pour but d'opposer ni de diviser les uns les unes et les autres. Car le racisme peut être intériorisé et coloniser nos esprits. Il concerne donc autant les noirs que les blancs. Notre tâche, celle que Bell Hooks nous laisse en héritage et dans laquelle son œuvre nous accompagne, est donc de penser la race sans essentialisation, et d'apprendre à décoloniser notre regard, c'est-à-dire nous libérer de ces représentations qui perpétuent les systèmes de domination. Je vous propose de nous y atteler dans cet épisode grâce à mes deux invités. Avec moi en studio, Audrey Célestine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et politiste, chercheuse à l'Université de New York, et vous êtes notamment l'autrice de l'ouvrage « Des vies de combat, femmes noires et libres » qui est apparu chez l'Iconoclaste en 2020. Et avec nous à distance depuis Berlin, je crois, Laurence Meyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directrice de Waving Liberation, une initiative axée sur le soutien et le renforcement de l'organisation de la justice numérique en Europe. Et vous avez également co-fondé et co-dirigé le processus pour décoloniser les champs des droits numériques en Europe également. Pour commencer, je voudrais qu'on revienne sur le parcours de la vie de Bell Hooks. On l'a dit rapidement, notamment dans notre premier épisode, elle naît dans le sud des États-Unis, dans le Kentucky, en 1952. Et elle y revient, en fait, à la fin de sa vie, toute la dernière partie de sa vie qu'elle passera dans le sud jusqu'à sa mort en 2021. Et donc, elle fait tout ce voyage du sud au nord, en passant par l'Europe, par d'autres espaces. Elle fait partie aussi de ces Afro-Américains qui sont nés sous la ségrégation et qui ont vu l'élection d'un président noir. Et je voulais savoir, Audrey Célestine, vous demander qu'est-ce que ça produit dans son appréciation ou dans son vécu de la suprématie blanche, tout ce parcours, tous ces déplacements.
Alors, je pense que une première chose qui est extrêmement importante, c'est que c'est une femme du Sud. Donc, c'est une femme noire américaine qui est née, qui a grandi dans le Sud. Et ça, elle le met très souvent en avant parce que ça a conditionné sa vie, sa trajectoire, sa manière de connaître dans sa vie très quotidienne la ségrégation la plus dure dans tous ses aspects, y compris dans ce que ça produit comme sens de la communauté au sein des populations noires. Et puis elle bouge vers les institutions d'élite du Nord où elle découvre d'autres facettes du racisme. Ses voyages, ses allers-retours, ils lui permettent aussi de complexifier sa manière, son appréhension de ce que c'est qu'être noir et ce que c'est que d'être soumis à la domination raciale et les visages différents pris par la suprématie blanche, parce que précisément pendant sa vie, cette suprématie blanche, elle n'a pas exactement le même visage et les mêmes contours et les mêmes manières d'agir et d'avoir des effets sur la vie des gens.
Oui, elle raconte souvent que quand elle quitte le Sud, elle s'attend justement à être moins exposée au racisme. Et en réalité, elle se rend compte que ce n'est pas le cas.
Elle se rend compte que ce n'est pas le cas et que c'est à la fois lié au fait d'être une femme noire, mais aussi de venir d'un milieu ouvrier, d'un milieu de classe populaire, et que cet enjeu de classe articulé au fait d'être une femme dans des milieux d'élite, ça transforme de façon assez forte son appréhension et sa compréhension de ces enjeux.
Laurence Meyer, dans ses mémoires, le premier volume de ses mémoires Nordos, elle raconte aussi comment est-ce que, en quelque sorte, la sortie de la ségrégation constitue aussi une confrontation plus frontale, c'est le cas de le dire, au racisme.
Mmh. Je pense que c'est assez important parce que justement, donc il y a toute dans les écrits de Bell Hooks, il y a toujours un mélange de rigueur académique avec une analyse profonde des textes et une rigueur théorique puissante. Mais il y a aussi toujours les éléments biographiques qui informent son positionnement théorique, académique. Et ça, c'est très lié à sa compréhension du fait que le positionnement, ce qu'elle appelle nos itinéraires, informe notre manière de penser, même s'il ne les dicte pas complètement. Et dans son positionnement par rapport à ces trajets-là, où elle a pu observer comment, en fait, dans l'Amérique ségrégée du Sud, bien qu'il y ait une violence verticale de la suprématie blanche qui est indéniable, qui était impossible à ignorer, il y avait, justement du fait de la ségrégation, aussi des poches en fait de résistance qui pouvaient se déployer de manière plus libre, de manière assez paradoxale, parce qu'il y avait un entre-soi. Et je pense que ça fait aussi écho aux écrits de Angela Davis et de l'autobiographie de Angela Davis, où elle décrit exactement la même chose quand elle parle justement de l'école ségrégée où elle allait, et quand elle allait voir ses cousins et ses cousines à New York, elle se rendait compte que eux ne connaissaient pas Frederick Douglass, ne connaissaient pas Harriet Tubman, parce que en fait la pression raciale dans le sud des États-Unis, qui était tellement forte, impliquée aussi dans les écoles noires qui étaient ségrégées avec des éducateurs noirs, de parler de cette histoire-là de résistance. Ce qui était moins le cas parfois et souvent dans les écoles du Nord, qui étaient donc de facto ségrégées, mais pas de jure. Et ça, je pense que ça, c'est une réflexion intéressante où on se dit le racisme se déploie différemment dans différents espaces, et les endroits où il est le plus évident, c'est peut-être aussi les endroits où la résistance est la plus évidente, même si ça semble paradoxal.
Alors, je vous propose qu'on écoute tout de suite une première lecture qui est extraite d'un de ses ouvrages, Where We Stand, Class Matters, qui est traduit dans le volume Classe et Race, où nous allons justement pouvoir travailler cette question de la déségrégation.
Tant que les intellectuels noirs visionnaires, tous milieux confondus, ne pourront pas créer de stratégie et de mode de vie conformes à l'idée d'une émancipation sans domination pour toutes les classes sociales, alors tous les efforts visant à l'autodétermination des personnes noires seront vains. Si les personnes noires pauvres et les plus défavorisées étaient en mesure de créer une solidarité de classe constructive, alors on pourrait espérer que leurs besoins seraient exprimés et satisfaits. Les élites noires progressistes doivent faire preuve d'humanité et s'opposer à leurs homologues conservatrices. Il est de notre mission de donner une perspective solidaire à la fin de la domination, qui impliquera de lutter contre le racisme en abordant de front et de manière réaliste les différences de classe et en intervenant de façon constructive dans un contexte où l'antagonisme de classe grandit entre les personnes noires jouissant de privilèges et les masses noires chaque jour privées de tout pouvoir.
C'était donc un extrait de Where We Stand, Class Matters, qui est paru en France dans le recueil Classe et Race chez Payot, traduction de Louise Cabanès et lu ici par Marie Sona Condé. Audrey Célestine, pourquoi est-ce que cette question des élites noires est si importante, justement dans le contexte de la déségrégation ?
La question des élites noires, elle est importante parce que la déségrégation, ça veut dire très concrètement qu'une partie de la population noire s'échappe dans une certaine mesure des espaces ségrégés de façon très physique, hein, déménage dans d'autres endroits, ce qui provoque un certain nombre de formes de désorganisation sociale. Ça peut sembler un petit peu paradoxal, mais ça fait partie aussi des effets de la déségrégation. Mais ce sont aussi du coup des gens qui ont accès à des espaces qui sont des espaces autrefois largement occupés par des personnes blanches. Ils ont accès à ces mondes blancs, à ces espaces blancs, ce qui pourrait laisser croire que les choses se règlent, que les choses vont mieux, que l'accès de certains à des positions de pouvoir, à des positions de privilèges, montre bien que la question du racisme est soldée. Et ce qu'elle montre, c'est que pas du tout. La simple assimilation dans le système patriarcal, capitaliste, suprémaciste blanc de ces élites noires, c'est très bien pour ces personnes-là. Mais en tout cas, ça ne change pas les structures de la société, ça ne change pas le destin de la plus grande partie de la population qui n'a pas accès à un certain nombre de ces espaces. Et ça laisse croire, voilà, ça fait croire à l'ensemble que tout s'est arrangé, que tout va mieux. Et jusqu'à 2008, quand on parlait d'Amérique post-raciale au moment de l'élection de Barack Obama. Laurence Meyer, cette question se pose notamment dans le cadre de l'école. Elle raconte de nouveau dans Noir d'Os, d'ailleurs, à quel point est-ce qu'elle est finalement malheureuse dans l'école intégrée, mixte, alors qu'elle pouvait s'épanouir aussi en tant que bonne élève dans l'école ségrégée.
Et je pense que ça encore une fois, il faut comprendre que Bell Hooks, elle fait partie d'un corpus d'études et de pensées qui aux États-Unis à ce moment-là, quand elle commence à écrire, devient assez proéminent. Et ça, la question de la déségrégation des écoles en tant que stratégie politique de libération, elle est posée par plusieurs auteurs. Elle est posée par Bell Hooks, notamment parce qu'elle justement, elle reconnaît la valeur d'être dans des écoles noires avec des professeurs noirs pour apprendre des stratégies de résistance contre la suprématie blanche. C'est aussi ce que dit Derek Bell quand il parle. Derek Bell, qui est donc l'un des fondateurs de la Critical Race Theory, professeur de droit à Harvard à l'époque, quand il parle du fameux cas Brown v. Board of Education of Topeka.
De 1954, oui, peut-être vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit.
Qui est un cas qui est étudié de manière assez large comme l'un des cas symboliques de la puissance de ce qu'on appelle le contentieux stratégique, parce que il met fin à la théorie de separate but equal, séparé mais égaux, qui avait été mis en place par Plessy v. Ferguson en 1867. Et donc l'idée de Brown v. Board of Education, c'est de dire en fait on ne peut pas être égaux si on est séparé et que du coup les écoles doivent toutes être déségrégées. Sauf que en réalité, ce qu'on sait, c'est que d'une part, les demandes de différentes personnes qui s'organisaient à l'époque dans le Sud, mais aussi dans le Nord, pour avoir des meilleures conditions d'éducation pour les élèves noirs, c'était des demandes matérielles. C'était des demandes de « on veut avoir les mêmes garanties matérielles dans nos écoles que dans les écoles blanches. On veut avoir des toilettes qui fonctionnent, on veut avoir des livres qui sont à jour, on veut pouvoir développer un corpus de manière régulière, on veut pouvoir avoir des ventilateurs, des chauffages, des choses comme ça. » Donc des demandes matérielles de bonnes conditions d'études pour leurs élèves. Ça a été transformé, et notamment par une élite. Il y avait des tensions à l'époque dans les mouvements sur quelles sont les revendications qu'on veut mettre en place au devant de la Cour suprême, en une demande de déségrégation, ce qui veut dire que, en fait, la seule manière d'avoir des bonnes écoles, c'est d'avoir des écoles qui ressemblent aux écoles blanches. Et ça, c'est au cœur de la réflexion de Bell Hooks et sa critique d'une certaine vision de l'antiracisme qui serait la seule manière de détruire le racisme, c'est d'accéder à la suprématie blanche. Et c'est la même chose que critique Derek Bell dans ses écrits. Il a plusieurs articles justement sur cette question-là, dont l'un particulièrement sur Brown v. Board of Education, où il dit exactement la même chose. Il dit qu'en fait, ce qui les élèves dans les écoles noires ségrégées ont perdu en termes d'apport éducationnel avec l'obligation de la déségrégation. C'est pas une apologie de la ségrégation, loin de là. C'est de dire qu'il y a des stratégies, des tactiques différentes de libération qui n'impliquent pas de toujours vouloir faire et de toujours vouloir accéder à la suprématie blanche, de toujours vouloir accéder aux normes que la suprématie blanche impose, notamment en matière d'éducation.
Et on et en effet, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas du tout de faire l'âge de la ségrégation. Il y a d'ailleurs un article qui s'intitule « Il faut déségréguer encore et toujours ». Nous allons tout de suite y venir. Audrey Célestine.
Oui, peut-être pour préciser, hein, pour notamment les auditeurs qui savent pas forcément ce que c'est Plessy versus Ferguson et Board, c'est des cas de la Cour suprême, l'un qui institutionnalise à la fin du 19e siècle la ségrégation et l'autre qui rend la ségrégation illégale, un peu comme l'a expliqué Laurence Meyer. Après, je pense quand même que cette question de la lutte pour les droits, c'est une question qui était importante pour le plus grand nombre, que simplement dans la pratique, cet accès à une égalité effective dans les droits devenant pas en pratique une égalité de conditions, parce qu'effectivement ce qui était demandé c'est des conditions matérielles, elle fait qu'un certain nombre de transformations stratégiques vont s'opérer et que les gens vont se rendre compte que effectivement devenir des égaux en droit et d'avoir
théoriquement, légalement le droit d'accéder à certaines écoles, n'empêche pas, si l'ensemble du système raciste, patriarcal, suprémaciste n'est pas démantelé, ne permet pas d'améliorer de façon significative les conditions. Et aujourd'hui d'ailleurs, le niveau de ségrégation des écoles aux États-Unis est extrêmement élevé.
Et cette question de l'égalité de toutes et tous, c'est aussi la question qui est soulevée dans le texte que nous avons lu, où on voit l'imbrication de la question de la classe et la question raciale. Est-ce que c'est en cela qu'il faut entendre ce que Bell Hooks dit par ailleurs sur ce féminisme, sur son féminisme qui est radical, révolutionnaire, qui s'applique ici à la lutte antiraciste, Audrey Célestine?
En fait, le but de Bell Hooks n'est pas tant, en tout cas dans sa position de féministe, n'est pas tant d'avoir accès à un siège à la table, si vous voulez. L'idée, c'est que cette table ne va pas. La manière dont elle, cette table, si elle ne laisse qu'une place à quelques-unes pour pouvoir à la fois, elle aussi, bénéficier d'un certain nombre de privilèges, ça ne suffit pas. Et que c'est la table elle-même ou le concept de table qui doit être renversé. Donc ça, c'est une chose qu'on retrouve voilà chez un certain nombre de féministes noires de l'époque et aujourd'hui également, et qui implique effectivement d'être à distance parce que d'un féminisme bourgeois blanc qui n'est pas dans une perspective révolutionnaire, qui n'est pas dans une perspective de transformation profonde de la société, ou qui ne s'intéresse pas tout simplement à la question du racisme, ne voyant finalement comme problématique que le sort des femmes bourgeoises blanches.
Laurence Meyer l'a évoqué, on l'a dit, donc il ne s'agit pas de prôner ce qu'on appellerait aujourd'hui en France un séparatisme, de vivre au sein de communautés qui seraient exclusivement noires. C'est néanmoins une question qui se pose dans cette théorie antiraciste, cette lutte antiraciste. Comment faire communauté en préservant en quelque sorte les subjectivités des personnes victimes de racisme, en, il me semble aussi, restituant à sa juste place le trauma vécu par les victimes de la ségrégation puis ensuite du racisme, sans néanmoins, puisque c'est aussi tout, il me semble, sa perspective, sans essentialiser, sans victimiser. Audrey Célestine.
Ce qu'elle constate, c'est que de fait, la déségrégation, elle provoque une complexification de la situation raciale aux États-Unis. Il suffit pas d'avoir un accès au droit pour pouvoir avoir l'égalité. De fait, la présence d'une partie des élites noires dans des positions de pouvoir, ça rend la question de la suprématie blanche et de la condition noire, de la blackness traduite dans les traductions françaises, souvent traduite par noirité. Tout ça est devient de plus en plus complexe. Et c'est à ça aussi qu'elle répond dans ses analyses, c'est-à-dire qu'elle essaye de comprendre dans un monde qui n'est pas celui de son enfance, mais qui est informé par le passé ségrégationniste institutionnel, comment réussir à libérer tout le monde. Et effectivement, on est vraiment très très loin d'une pensée essentialiste. Et ce qu'elle analyse, et qu'elle, on n'est pas dans la dénonciation, mais ce qu'elle analyse notamment, c'est le fait que face à ce trouble dans ce que c'est que l'identité des Noirs, ce que c'est que la définition exacte de la lutte, il faut fonder des armes qui sont un peu nouvelles, il faut essayer de trouver des manières nouvelles de se battre contre le racisme et la ségrégation. J'ai un peu perdu le fil de mon idée, je suis désolée.
Laurence Meyer, comment lutter contre ces effets de la ségrégation et du racisme sans pour autant se dire victime?
Je pense qu'il y a plusieurs choses dont elle parle sur la question de la victime et de ce que ça engendre en termes de perte d'agentivité. Et je vais y revenir. Je voulais juste préciser aussi par rapport à ce qui avait été dit auparavant. C'est pas juste que c'est autant ségrégué, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de ségrégation de facto aux États-Unis qu'après. Et c'est le bilan de Brown v. Board of Education. Sur la question de l'essentialisme et sur la question du positionnement en tant que victime ou pas, je pense que c'est hyper important encore de réancrer la pensée de Bell Hooks dans une pensée matérialiste. C'est-à-dire que sa critique de l'essentialisme de la noirité, d'une vision de la noirité qui serait essentialiste, c'est parce qu'elle pense que penser la noirité de manière essentialiste, c'est rentrer dans les clous de la suprématie blanche. Puisque l'essentialisation de la race, c'est l'un des outils de la suprématie blanche. Et du coup, elle critique un projet de domination coloniale et impérialiste, d'où sa position révolutionnaire. Et de la même manière qu'elle critique, du coup, les positionnements féministes blancs bourgeois, comme il a été dit, pour des questions matérialistes, c'est-à-dire que ça ne change pas matériellement les conditions d'existence de toutes les personnes qui sont dominées, et elle les comprend dans différentes strates, elle va critiquer aussi une vision essentialiste de la noirité qui ne pense les questions de pouvoir que de manière statique et du coup racialiste et du coup dans la suprématie blanche. Ce qui lui importe, c'est la question de l'agentivité. Comment on crée, comment on mobilise de l'agentivité, comment on reconquiert notre agentivité à des visées révolutionnaires pour créer des stratégies et des tactiques révolutionnaires de changement radical de nos conditions communes d'existence.
Et cette critique de l'essentialisation, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire que elle s'applique aussi aux personnes noires, aux personnes racisées, puisque l'un des effets de la déségrégation, Audrey Célestine, c'est aussi l'intériorisation du regard blanc, ce qui fait que ce qu'il faut en quelque sorte réussir à produire, c'est donc ce qu'elle appelle la décolonisation des esprits, la décolonisation des imaginaires, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut lutter contre cette essentialisation en se libérant de ces stéréotypes que les personnes noires vont elles-mêmes se déployer pour se penser elles-mêmes, si je puis dire.
Oui, absolument, et je pense que c'était à la fois important ce rappel que fait Laurence Meyer sur cette perspective matérialiste de Bell Hooks, mais aussi sur le fait qu'effectivement, cette décolonisation, c'est une transformation des imaginaires, des images extrêmement négatives que les Noirs ont pu eux-mêmes internaliser en raison de l'histoire du pays, de la violence qui leur est faite, etc. Et la décolonisation des esprits, c'est notamment sortir d'un déni, c'est-à-dire à la fois reconnaître la force des traumas, la force des difficultés vécues en raison du racisme, mais de s'en servir pour pouvoir passer à une phase d'action collective et d'action collective révolutionnaire. Et ce moment de décolonisation, c'est pas simplement une espèce, il n'a pas qu'une dimension individuelle, même s'il en a également une, mais il y a cette idée de cette transformation-là pour pouvoir parvenir justement à une pratique politique, pouvoir parvenir à une conscience politique qui, elle, va permettre l'action elle-même, l'action politique et l'action organisée. Et c'est vrai que cette décolonisation de l'esprit et de l'imaginaire qu'elle engage, elle montre bien à la fois comment elle est effectuée à des moments du mouvement social aux États-Unis. Elle montre la puissance, par exemple, de Black is Beautiful, qu'en fait, c'est très important à ce moment-là dans l'histoire d'entendre Black is Beautiful, mais elle montre également comme une partie des victoires de ce moment-là qui va dire la beauté noire ne sont pas permanents, que c'est un travail de tous les jours. Il y a un exemple qu'elle donne et que je trouvais extrêmement parlant parce qu'effectivement, elle donne beaucoup d'exemples de culture populaire, de sa vie quotidienne, mais également de la culture populaire. Et elle explique, par exemple, que dans les séries télévisées des années 80 et 90, on a une multiplication de magistrats, de juges noirs à la télé. Donc, on a vraiment l'impression que, en fait, bon, ça va, c'est réglé. Il y a plein de juges noirs, alors même que la réalité, c'est qu'il y en a très peu dans le pays. Et elle... Ça, c'est juste l'un des exemples. Elle utilise beaucoup la culture populaire pour pouvoir justement montrer à quel point il y a à la fois ces décalages entre la réalité et ce qui est montré, mais en plus une reproduction d'éléments extrêmement négatifs qui ont un impact réel sur la manière dont les gens vont se voir, vont se représenter et du coup continuer, perpétuer la colonisation de leur esprit.
Oui, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, elle raconte aussi justement qu'elle a appris à développer ce regard critique en regardant la télévision avec ses parents à l'époque de la ségrégation où justement il y avait tout un discours qui accompagnait les images qui étaient vues et les images et les représentations caricaturales des personnes noires et qu'ensuite, comme vous le dites, les représentations à la télévision donnant l'impression que les choses sont réglées en quelque sorte, on a des générations plus récentes qui ont moins appris à développer donc ce qu'elle appelle le regard oppositionnel, ce regard critique sur les images produites par la culture populaire notamment. Laurence Meyer, qu'est-ce que c'est le regard oppositionnel ?
Le regard oppositionnel, c'est une compréhension du regard comme une question de résistance. C'est-à-dire que parce que Bell Hooks a une compréhension foucauldienne du pouvoir comme relation de pouvoir, elle comprend aussi qu'il y a des interstices de résistance qui toujours existent. Et le regard est en cela un véhicule de résistance à part entière. Et quand elle parle du regard oppositionnel, elle se réancre encore une fois dans l'histoire du racisme et dans en tant que production de sens. Elle comprend le racisme et la domination blanche, la suprématie blanche, le colonialisme, comme une aventure et un projet épistémologique qui décide de comment on fait sens, de qui a le pouvoir de faire sens, de produire de la connaissance. Et en cela, le regard oppositionnel, c'est un regard, et elle explique très très bien justement quand elle parle de comment on interdisait aux esclaves de regarder, aux personnes esclavagisées, de regarder les personnes qui les avaient esclavagisées, sous peine de sanctions corporelles, sous peine de punition corporelle, et que cette pratique est reproduite aussi parfois dans les familles noires en disant que ne me regarde pas. Elle réanalyse ça, elle dit en fait, il faut réclamer le regard comme une manière de challenger la réification dont les dominés font l'objet. C'est réaffirmer un positionnement en tant que sujet. Et donc c'est aussi créer un contre-langage. Et je pense que c'est ce qui est hyper important, c'est vraiment se dire. Le regard, c'est une manière de créer un contre-langage dans un univers. Et dans le regard oppositionnel, elle parle beaucoup du cinéma en tant que spectatrice, donc femme noire spectatrice, donc celle qui regarde. Donc il y a une agentivité dans le fait de regarder. C'est pas un acte passif. Et elle parle, par exemple, de Birth of a Nation de D.W. Griffith, qui est
connu
comme l'un des films qui a développé le langage cinématographique qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un film qui est une propagande raciste, ségrégationniste. De manière assez puissante à l'époque de la Reconstruction, donc après à la fin de la guerre civile qui met fin à l'esclavage légal aux États-Unis. Et on peut le voir que oui, Zora Neale Hurston, qui est la personne qui la première personne connue femme noire à avoir fait des films, son regard à elle quand elle filme les personnes noires et qu'on regarde ses films à elle en opposition au film de Christie, un regard totalement différent. Et en fait, la question du regard, c'est une question politique, parce que c'est le rejet du regard internalisé, parce que c'est aussi comprendre le regard comme utopie. Et elle le dit de manière assez magnifique dans ce texte-là, donc sur le regard oppositionnel, elle dit « quand on regarde, on ne fait pas que résister ». On crée aussi des textes alternatifs. C'est pas juste une réaction. On crée la relation. On conteste, on résiste, on révise, on interroge et on invente à plusieurs niveaux. Et ça, je pense que c'est hyper important, la puissance du regard. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a créé avec Marina Montmirel, avec Adeline Poundou, ce festival WUROL, qui est un festival afroféministe, où pendant...
Nous mettrons toutes les informations, oui, Laurence Meyer, sur votre travail sur le site. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de l'émission. Les textes que vous avez évoqués sur le regard oppositionnel se trouvent dans le volume du même nom qui est apparu chez Payot. Sur le sud, l'ancrage de Belloux dans le sud dont nous avons parlé en début d'émission, je vous indique deux ouvrages, Cultiver l'appartenance aux éditions Cambourakis et apparaître en octobre prochain, Élégie des Appalaches, un recueil de poésie de Belloux aux éditions Prouesse. Merci beaucoup à vous deux, Audrey Célestine et Laurence Meyer. Toutes les références de vos ouvrages, donc, ainsi que la réécoute de cette émission et de toute notre série sont à retrouver sur franceculture.fr. À la page de l'émission et dans l'application Radio France. Vous pouvez également retrouver un cahier central consacré à Belloux dans le numéro de Philosophie Magazine qui paraît aujourd'hui même. Cette émission a été réalisée par Taïsia Froidure, prise de son Jean-Guilain Meige et Anthony Thomasson. Merci beaucoup à Marie-Sona Condé pour ses lectures. Et demain, pour notre cinquième et dernier épisode, nous parlerons de la pédagogie de la libération chez Belloux avec Nassira Edjerassi et Margot Portron. À demain. They not like us.